Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Cherchez l'intrus. Oui, voilà, il y a 9 planètes dans le système solaire et depuis peu, on vient d'apprendre qu'il n'y en a plus que 8. Pour cette rentrée 2006, les élèves auront un nom en moins à retenir, il s'agit de Pluton. Alors, lors de la 26e Assemblée Générale de l'Union Astronomique Internationale, l'UAI, qui s'est tenue du 14 au 25 août à Prague, quelques 2500 astronomes ont décidé de déchoir Pluton de son statut de planète et le système solaire ne compte plus désormais que 8 planètes. Alors pour en parler avec nous, Thérèse Encrenaz vient de nous rejoindre en studio. Thérèse Encrenaz, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes astrophysicienne, directeur de recherche au CNRS et vous dirigez le département de recherche spatiale de l'Observatoire à Paris-Meudon.
Si oui, je l'ai dirigé, je ne le dirige plus. C'était il y a quelques années.
Et vous êtes alors spécialiste de l'étude des atmosphères planétaires et vous avez participé, et vous participez, à de nombreux programmes d'exploration spatiale.
Oui, en effet.
Et vous revenez d'une mission d'ailleurs au Chili.
En effet.
Alors, on ne voit peut-être pas trop le bronzage du Chili, mais donc vous êtes resté
une dizaine de jours. Oui, j'étais à l'ESO, donc European Southern Observatory, qui dispose du VLT, Very Large Telescope. C'est un ensemble de 4 télescopes de 8 mètres et c'est un outil extraordinairement performant.
Et qui vous a permis donc de travailler sur Uranus et Neptune.
Oui, j'ai travaillé sur Uranus et Neptune. Nous avons obtenu des images dans l'infrarouge qui étaient de très belle qualité.
Alors, vous êtes également auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation sur les sujets tels que le système solaire, donc qui nous intéresse, les planètes géantes, les comètes, et puis bien sûr, plus en règle générale, l'astronomie. Alors, vous allez pouvoir nous expliquer en détail pourquoi cette polémique, pourquoi Pluton suscite-t-elle autant la polémique, pourquoi on l'a retiré, pourquoi aussi on a à un moment donné posé la question de savoir si d'autres planètes, en savoir 3, pouvaient appartenir à ce système solaire qui sont donc Cérès, Charon et Xéna. Vous allez pouvoir nous donner les détails.
Je vais essayer.
Alors, tout simplement, Thérèse Encrenaz, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une planète, déjà, pour partir sur une bonne base?
Alors, disons, une planète, c'est un objet de bonne dimension, on va dire, dans un premier temps, qui orbite autour du Soleil. Et une planète, c'est un objet qui s'est formé à l'intérieur d'un disque, par collision de petites particules qui se sont accrétées, comme on dit, entre elles, et qui, en formant un corps de plus en plus gros, ont balayé la matière qui était autour d'elles dans le disque. Ça, c'est le scénario qu'on a fini par comprendre et qui explique très bien, en fait, pourquoi nous avons 4 planètes dites telluriques, qui sont proches du Soleil, relativement petites, et puis 4 planètes géantes, qui sont gazeuses, très grosses, plus légères et qui sont à plus grande distance. Alors, ce scénario donc de formation du système solaire rend bien compte du fait que les planètes ont des orbites qui sont toutes circulaires, avec le Soleil au centre, qui sont concentriques et qui sont toutes à peu près dans un même plan, c'est ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. Donc voilà, pour répondre à votre question, ce qu'est
une planète.
Voilà.
Alors pour autant, toutes ces planètes n'entrent pas forcément dans cette définition.
Alors justement, en fait, on voit bien qu'il y a 2 classes de planètes. Il y a celles qui sont près du Soleil, qui sont denses, rocheuses. Il y a celles qui sont loin du Soleil, qui sont massives, gazeuses, volumineuses. Et puis, il y avait cette 9e planète, jusqu'à cette année, il y avait cette 9e planète Pluton, qui était l'espèce de mouton noir du système, parce que premièrement, elle n'est pas dans le plan de l'écliptique, deuxièmement, elle est assez excentrique, et troisièmement, elle ne ressemble en rien aux objets précédents, puisque c'est un petit corps glacé, de glace essentiellement. Donc, depuis beaucoup d'années, on avait ce problème de faire rentrer cette anomalie dans la classe des planètes.
Alors, sa découverte date de 1930, c'est une découverte relativement récente.
Oui, tout à fait. Et à l'époque, alors c'est une histoire assez compliquée, puisque vous savez sans doute que lorsque Neptune a été découvert, c'était suite à des calculs de mécanique céleste, parce que l'orbite d'Uranus montrait des anomalies qui prouvaient qu'il y avait un objet massif à plus grande distance. Et puis à l'époque, les calculs n'étaient pas extrêmement précis et on a cru un moment que l'orbite de Neptune, elle aussi, souffrait d'anomalies et qu'il fallait trouver un objet massif plus loin. On sait aujourd'hui que ce n'était pas vrai, que c'était des incertitudes dans les calculs. Donc, pendant longtemps, les gens ont cherché une neuvième planète avec l'idée qu'elle serait massive et qu'elle expliquerait le problème des anomalies de l'orbite de Neptune. Donc, quand Pluton a été trouvé, première réaction, voilà la planète qu'on
cherche. Voici la neuvième planète.
Voilà. Et puis après, les gens se sont aperçus qu'elle n'était pas suffisamment massive pour expliquer quoi que ce soit.
Alors, suffisamment massive, c'est une question de diamètre ?
C'est une question de densité. C'est une question de masse, en fait. C'est-à-dire, en gros, une fonction qui dépend à la fois du rayon ou du diamètre et de la densité. Mais il faut une certaine masse pour perturber une orbite. Le paramètre important, c'est la masse.
Pluton, c'est à peu près 2300 km de diamètre.
Oui.
Elle est formée de glace.
Oui.
Et effectivement, Pluton est même plus petite qu'on ne le pensait au tout départ.
Tout à fait. Mais jusqu'au début des années 90, disons, le problème de son existence en tant que planète n'a pas été remis en cause.
Pourquoi ?
Alors, en fait, c'est parce qu'on ne connaissait pas d'autres objets appartenant à cette catégorie. Et tout a changé au début des années 90. Alors, je crois que la première découverte date de 92. Ça a été publié un peu plus tard, mais le premier objet transneptunien, comme on les appelle maintenant, ce sont des objets donc, qui ressemblent à Pluton. Ce sont des corps glacés qui ont des diamètres de quelques centaines de kilomètres, typiquement, et qui évoluent au-delà de l'orbite de Neptune. C'est pour ça qu'on les appelle
transneptuniens.
On dit aussi qu'ils habitent la ceinture de Kuiper, parce que l'astronome Gerard Kuiper avait prédit, il y a plusieurs dizaines d'années, c'était même peut-être avant les années 50, qu'une telle classe d'objets devait vraisemblablement exister.
Alors, Pluton est donc une planète transneptunienne.
Absolument.
Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu la classer dans les satellites ?
Alors, non, parce qu'un satellite, c'est un objet qui est en orbite autour d'une planète. Prenez la Lune, par exemple, elle tourne autour de la Terre. Pluton tourne bien autour du Soleil, avec une orbite excentrique, mais malgré tout, c'est bien le Soleil qui est le foyer de son ellipse. Donc on ne peut pas dire que c'est un satellite. C'était vraiment une nouvelle classe d'objets, qui n'était pas connue, en fait. On n'avait pas réalisé avant les années 90 qu'il n'était pas seul de son espèce.
Alors, dès les années 90, à ce moment-là, la communauté scientifique va se diviser, puisque à partir du moment où on va découvrir d'autres... D'autres planètes ?
Pas vraiment, parce qu'en fait, au début, les gens comprennent... Bon, maintenant, on a découvert, je ne sais pas, il y a plus de 1000 objets transneptuniens qui ont été découverts. Puis, on en trouvera encore bien plus. Mais au début, bon, les découvertes sont arrivées par quelques dizaines, quelques centaines. Mais aucun de ces objets n'était aussi gros que Pluton. Donc, le problème ne se posait pas vraiment. Pluton restait le plus gros de ces objets-là. Donc, ma foi, pour des raisons historiques, je crois que personne ne pensait remettre en cause son statut de planète.
Alors, à partir de quand on a commencé à remettre en cause son statut ?
À partir de 2003, parce que l'Américain Mike Brown a découvert un nouvel objet transneptunien qui s'est avéré être plus gros que Pluton. C'est le fameux Xena, qui s'appelle aussi UB313, enfin
oui.
Un nom un peu barbare. Et dont on est maintenant à peu près sûr, même complètement sûr, qu'il est plus gros que Pluton. Donc, assez logiquement, le découvreur a dit « mais j'ai découvert la dixième planète ». C'était logique de son point de vue. Mais à partir de là, on s'est interrogé, parce que si on a découvert en 2003 un objet plus gros que Pluton, avec les moyens qui s'améliorent toujours, les performances des instruments qui ne font qu'augmenter, il y a gros à parier que l'année prochaine ou dans deux ans, on en trouvera une autre. Et le nombre de planètes du système solaire va augmenter à l'infini.
Bien sûr.
Ce qui pose un problème.
Et les personnes qui rédigent les programmes scolaires auront de gros problèmes.
Exactement. Donc en fait, le problème, il est né de cette découverte de Xena.
Alors vous dites ce fameux Xena, ou cette fameuse Xena, je ne sais pas
oui,
si
oui, je crois que ce n'est pas son nom officiel encore, hein, parce que c'est l'UAI qui fixe les noms, c'est une proposition. Mais enfin, appelons-le comme ça, c'est plus joli.
En fait, vous faisiez référence à Xena, puisque c'était l'une des trois planètes que l'on proposait également à mettre dans cette liste de planètes du système solaire.
Oui.
Alors si nous en venions peut-être à ces trois planètes, trois objets...
Effectivement, une proposition a été faite avant la réunion de l'Assemblée générale de l'UAI.
Qui a eu lieu donc au mois d'août 2006.
Voilà, donc la presse s'en est fait largement écho, tous les journaux ont titré « Il y a 12 planètes dans le système solaire ». Et il y avait trois candidats qui étaient présentés. Donc, personnellement, moi, je n'ai pas compris la logique qui était derrière cette proposition.
Alors, vous n'étiez pas à ce, congrès, mais vous l'avez appris par le biais de la
presse. En lisant les journaux, comme tout le monde, et j'étais extrêmement surprise. Je n'ai pas vu que la logique derrière ces propositions. Parce que ces trois planètes, c'était Pluton, très bien, Xéna, on peut comprendre.
Cérès et Charon.
Charon, donc, un satellite de Pluton. Et puis Cérès, le plus gros des astéroïdes. Alors là, d'un point de vue physique, ça n'avait pas de sens.
Oui, parce que vous venez nous expliquer ce qu'était un satellite. On ne pouvait pas l'intégrer donc, au planète du système solaire.
Si Charon est intégré comme planète, à ce moment-là, il faut aussi prendre la Lune. Il faut être cohérent. Et puis, il y a bien d'autres satellites en orbite autour des planètes géantes. Donc
oui,
il y a
satellite
pas de logique,
de Mars, par exemple, Phébos, Deimos.
Voilà. Enfin, ils sont petits, ceux-là. On aurait pu arguer que leur taille était insuffisante. Mais pour la Lune, vraiment, il y avait un problème. Donc il y avait un problème à ce niveau-là, et puis au niveau de Cérès aussi, pourquoi prendre Cérès, le plus gros des astéroïdes, comme planète, et puis laisser tomber tous les autres, alors qu'ils appartiennent manifestement à la même classe d'objets, c'était incompréhensible. Donc moi j'étais, je vous l'avoue, consternée quand j'ai vu cette proposition.
Alors pourquoi cette proposition a été faite, puisque ce sont des scientifiques qui les ont faites?
Écoutez, alors là je vous avoue, je ne sais pas, ce qui s'est passé, c'est qu'une première commission de l'UAI, a commencé à plancher sur le problème l'année dernière ou les deux années passées, n'a pas abouti à une conclusion. Ils ne se sont pas mis d'accord. Suite à quoi l'UAI a fait un groupe restreint de 7 personnes, mais pas avec seulement les astronomes. Ils ont joint, je ne sais pas, des historiens, des sociologues, des gens de la communication, enfin, un éventail beaucoup plus large.
Des sciences humaines.
Des sciences humaines. Et c'est ce groupe de 7 personnes qui a fait... apparemment, cette recommandation, mais je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec aucun des membres et je ne sais pas comment ils sont arrivés à cette proposition. Mais ce qui est clair, c'est que devant l'Assemblée Générale, cette proposition a été très logiquement, à mon avis, blackboulée, parce que d'un point de vue physique, elle ne tenait pas la route.
Donc en l'occurrence, cette proposition de 12 planètes du système solaire n'a pas été adoptée.
Oui.
En revanche, on a enlevé Pluton.
Oui, ce qui est à mon avis...
Ce qui est une petite révolution.
Absolument, mais je crois qu'on n'avait que deux cas de figure possibles. Ou bien on restait avec un système de 9 planètes en arguant que les raisons historiques étaient plus fortes que tout le reste. Ou bien on essayait d'avoir une approche physique et très logiquement, on enlevait Pluton. D'ailleurs, je crois que la même chose s'est passée pour Cérès. Enfin, j'ai lu ça, je n'ai pas vérifié l'information, mais quand Cérès a été découverte, c'était le plus gros astéroïde, il faisait 900 km ou quelque chose comme ça, on a dit que c'était une planète. Et puis, un peu après, on a découvert les autres astéroïdes qui étaient plus petits. Et à ce moment-là, on a dit, ben non, Cérès, c'est pas une planète, on va dire, c'est le plus gros des astéroïdes. En fait, la seule différence avec le schéma d'aujourd'hui, c'est que Pluton aura attendu 70 ans, presque 80, pour qu'on découvre d'autres objets, tandis que Cérès, très rapidement, a été rattrapé par les autres astéroïdes. C'est la même logique qui a fait enlever Cérès au moment de sa découverte et qui fait enlever Pluton aujourd'hui.
Alors, maintenant qu'on a bien déterminé ce qu'était Pluton, ce qu'était Cérès, ce qu'était Charon, ce qu'était Xéna, maintenant, quelle est la définition d'une planète aujourd'hui? Quelle a été la définition adoptée par l'UAI?
C'est pas simple. Ça n'est pas simple de définir ce que c'est qu'une planète. Mais je peux vous dire en quelques mots ce qui a été retenu. Premièrement, l'objet doit être en orbite autour du Soleil.
Ça,
c'est normal.
Commun.
Ensuite, il faut qu'il soit suffisamment massif pour avoir acquis la forme sphérique. Parce que c'est le champ de gravité de la planète qui lui donne la forme sphérique. Et la troisièmement, c'est qu'il faut qu'il ait nettoyé en quelque sorte la matière qui l'entoure dans son mécanisme de formation. Ça fait référence à ce que je vous disais au début. Les planètes se forment par accrétion de particules le long de leurs orbites. Et il faut qu'elles aient, si vous voulez, aggloméré toute la matière qui était autour. Alors cette définition permet d'exclure les astéroïdes. Ça permet aussi d'exclure les satellites qui n'ont pas accrété la matière en orbite autour du Soleil de cette façon-là. Donc on retombe, avec cette définition-là, on retombe sur les 8 planètes, les 4 telluriques et les 4 géantes.
Et alors, de ce congrès, ou peut-être déjà même avant, il en ressort également une catégorie des planètes naines.
En effet.
Qui sont ces planètes
naines? C'est un petit peu l'eau de consolation de ceux qui ont perdu leur planète Pluton dans l'affaire. Ces planètes naines, ça va être les plus gros objets transneptuniens, c'est-à-dire on va trouver sûrement Pluton, bien sûr, Xéna. Et puis, je crois qu'il est question d'y mettre Cérès, mais alors ça, c'est la liste est en cours.
Mais Cérès, c'est une astéroïde, vous nous l'avez
oui,
dit.
Oui, mais je crois que c'est en débat de l'y mettre. J'en suis pas sûre. Et ce que je crois, c'est que ça, c'est un débat qui commence pour les 3 années qui viennent, de savoir quels sont les objets qui seront classés planètes naines.
Et en fait, toutes les nouvelles découvertes à venir seront classées dans les planètes naines.
Oui, c'est effectivement ce qui est prévu.
On marque une courte pause, Thérèse Ancrenaz, on se retrouve tout de suite après pour la suite d'une autre émission. À tout de suite.
l'Académie française.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie des sciences.
L'Académie des beaux-arts.
L'Académie des sciences morales et politiques.
Pour vous,
une seule radio.
Sur Internet,
Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Thérèse Encrenaz qui est avec nous en studio. Alors avec vous Thérèse Encrenaz, on vient d'aborder une première partie sur pourquoi avoir enlevé Pluton de notre système solaire, des planètes du système solaire. Alors maintenant que nous avons bien pu mettre les choses à plat, on va peut-être aborder les choses en détail sur ce ciel en fait. De quoi est composé notre système solaire? Est-ce que c'est du vide? Est-ce que c'est rempli de vide, Thérèse Encrenaz?
Bien, oui, je dirais à premier ordre, c'est du vide, parce que l'espace entre les corps est immense. Donc si on regardait le système solaire vu de très loin, on aurait du vide avec de loin en loin, de très loin en très loin, une toute petite poussière représentant une planète ou un satellite.
Ce sont vraiment des distances qui ne nous parlent pas encore à,
oui,
à nous, être humains.
Oui, d'ailleurs, on peut s'amuser à faire une maquette, si vous voulez. Si vous vous amusez à réduire le système solaire, en supposant que le Soleil, on va dire, fait un mètre de diamètre, quelque chose comme ça. À ce moment-là, à 100 mètres, vous avez la Terre. À 500 mètres, vous avez Jupiter. À 1 km, vous avez Saturne. À 2 km, vous avez Uranus. Donc, vous avez une idée déjà.
Oui, en fait, effectivement, c'est quand même déjà, vrai. On commence déjà à
se visualiser plus. Hein. Est plein de vide. Le système solaire est plein de vide. Et c'est même un vide qui est meilleur que n'importe quel vide de laboratoire. N'importe quel vide qu'on peut réaliser avec des pompes ou des systèmes au laboratoire, le vide du milieu interplanétaire, c'est vraiment le vide.
Parce que quand on parle de vide, c'est... Il n'y a pas d'atmosphère.
Il n'y a pas de matière.
Il n'y a pas de matière.
Simplement, disons, la quantité de particules par centimètre cube ou par kilomètre cube ou ce que vous voulez est extrêmement faible. Ça, il faut bien le voir, parce que même si on a l'impression que le système solaire est peuplé d'un tas de choses, et c'est vrai, en même temps, les dimensions sont immenses. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré ça, les collisions jouent un rôle important. On peut se demander comment des collisions peuvent intervenir.
Bien sûr, alors que justement cet espace est si grand.
Alors, pourquoi? Eh bien, parce que c'est aussi que les échelles de temps sont immenses. L'histoire du système solaire, ça s'étend sur 4,6 milliards d'années. Donc, même s'il y a le vide dont je vous parle, même s'il y a peu de corps... Eh bien, en 6 milliards d'années, on a le temps d'avoir des collisions.
On a le temps d'avoir des collisions.
Oui, et ces collisions existent et elles modifient les images.
De ces collisions, il en ressort quoi alors? Ce sont des astéroïdes, ce sont des étoiles, qu'est-ce qu'il en ressort?
Par exemple, en 1994, on a assisté en direct à la rencontre, la collision entre une comète qui s'appelait Shoemaker-Levy 9 avec Jupiter. Cette comète s'était approchée de Jupiter. Les trajectoires évoluent parce qu'il y a toujours des perturbations qui viennent des planètes voisines. Et donc, cette comète qui était en orbite autour de Jupiter a fini par se rapprocher tant et si bien que la force de gravité de Jupiter est telle que la comète s'est cassée par effet de marée. Et ensuite, tous les fragments, 2 ans plus tard, sont rentrés dans l'atmosphère de Jupiter. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui a été suivi par tous les télescopes du monde. C'était en juillet 1994. Et on a observé des impacts, des gros impacts météoriques.
Des flashs.
Des flashs, absolument, en vraie grandeur. Et on a vu la réponse de l'atmosphère. C'était extraordinaire. Il y a eu des élévations de température jusqu'à 10 000 degrés. Je crois qu'il y a eu des éjections de matière jusqu'à 3000 km d'altitude au-dessus de Jupiter. C'était des phénomènes fantastiques. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Ces collisions existent et dans notre carrière d'astronome, on a eu la chance d'en voir une. Parce que c'est malgré tout, c'est quelque chose qui ne se produit que toutes les plusieurs centaines d'années vraisemblablement.
Mais alors, qu'en est-il de ces poussières que l'on peut trouver dans ce système solaire?
Alors, il existe, bien sûr, malgré ce que je vous ai dit, il y a des particules qu'on appelle des poussières interplanétaires. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle le vent solaire. Ce sont des particules émises par le Soleil en permanence, qui joue un rôle important d'ailleurs pour les phénomènes d'aurore pour la Terre, parce qu'elles interagissent avec le champ magnétique de la Terre, avec la magnétosphère terrestre.
Mais alors, ces poussières, ce sont des...
Alors, le vent...
c'est pas de la poussière au sens où nous,
l'entend. Non, le vent solaire, ce sont des particules énergétiques. Ce sont des ions et des électrons, essentiellement. Des ions, c'est-à-dire des noyaux d'hydrogène et d'hélium. Des noyaux d'hélium.
Mais que l'on ne visualise pas, de
non,
ce fait.
Non, on ne les visualise pas, mais ce sont des particules chargées, donc, en présence d'un champ magnétique, elles se manifestent. Et c'est comme ça qu'une de leurs manifestations, ce sont les aurores boréales et australes.
Alors, on va peut-être continuer sur notre lancée de ce que l'on trouve dans ce système solaire. Alors, vous parliez des comètes.
Oui.
C'est un phénomène bien mystérieux, ces comètes. Vous allez peut-être pouvoir nous en parler, nous en dire quelques mots.
Oui, tout à fait. Ben, les comètes, c'est effectivement, ce sont des objets qui ont défrayé la chronique depuis l'Antiquité, parce que il arrive qu'elle donne lieu à des phénomènes tout à fait spectaculaires dans le ciel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une comète ? Eh bien, c'est un tout petit corps qui fait un noyau de glace, en fait, qui fait quelque chose comme quelques kilomètres de diamètre.
Autrement mais qui dit, sort d'où ?
Alors, ce sont des résidus du disque primitif à partir duquel le système solaire s'est formé. Peut-être on peut faire une parenthèse sur comment le système solaire s'est formé,
parce que
ça explique ensuite toutes les classes d'objets qu'on trouve dedans.
Alors, parlons déjà de la formation du système solaire, et après nous en viendrons aux comètes.
D'accord. Alors, le système solaire, au départ, vous avez un nuage interstellaire de matière en rotation. Qu'est-ce que c'est que la matière interstellaire ? Ben, il y a du gaz et de la poussière, et ce gaz et cette poussière, ils ont une composition chimique en accord avec les abondances cosmiques, c'est-à-dire, en gros, plus les éléments sont légers, plus ils sont abondants. Alors, vous avez de l'hydrogène, en très très grande quantité. Après, vous avez de l'hélium. Et puis après, vous avez les éléments plus lourds, carbone, azote, oxygène, mais en quantité beaucoup plus faible, c'est moins de 1%. Et les autres, et plus les éléments sont lourds, et moins ils sont abondants. Alors ça, c'est la donnée de base. Voilà, vous avez votre nuage, il est en rotation, et les lois de la mécanique arrivent à expliquer pourquoi plus un nuage est en rotation rapide, plus il va s'effondrer sur lui-même. Parce qu'il tourne de plus en plus vite.
Le noyau va être de plus en plus dense.
Voilà, et ça va se contracter, et il va s'écraser en un disque. Alors au centre, vous avez la matière qui se contracte et qui va donner le futur soleil. Et puis dans le disque, vous avez donc la matière de départ, c'est-à-dire vous avez du gaz et des poussières. Et ce qui se passe, c'est que autour des poussières solides, ces poussières solides qui sont en rotation autour du centre, elles vont entrer en collision permanente les unes avec les autres. Il faut imaginer que c'est un milieu très turbulent. Et les collisions multiples vont avoir pour effet de faire croître des petits corps qu'on appelle des planétésimaux. Ces petits planétésimaux, donc faits à partir de particules solides, ils vont grossir jusqu'à acquérir un certain champ de gravité. Et là, la gravité va augmenter le processus, parce qu'à partir de là, ils vont attirer la matière autour, par gravité. Non seulement par collision, mais aussi par gravité.
En fait, c'est en plusieurs étapes. C'est-à-dire
Exactement.
Que c'est des petits noyaux qui vont petit à petit grossir et se...
Je dirais la révolution des dernières dizaines d'années, c'est qu'on est maintenant capable, avec les ordinateurs super puissants, de faire des simulations numériques. C'est-à-dire, on lance un programme avec un certain nombre de particules, un très grand nombre de particules, dans une certaine configuration géométrique, et puis on laisse évoluer le système pour simuler des temps très longs. Et on constate qu'effectivement, ce genre de simulation conduit bien à la formation, par exemple, de quelques planètes telluriques. Alors, on ne va pas reconstituer le système solaire, parce qu'il y a un effet de hasard, c'est un peu...
Oui, bien sûr.
Si vous imaginez, les collisions, on ne donne pas deux fois de suite le même résultat. Mais on voit qu'on est capable, comme ça, par des modèles comme ça, de fabriquer des objets de type planète tellurique ou planète géante.
Et donc, toutes ces planètes ont la même origine, en fait ?
Absolument. Alors, ce scénario aussi par collision, en fait, par formation au sein d'un disque, il permet aussi d'expliquer très simplement pourquoi vous avez des planètes telluriques près du Soleil et des planètes géantes loin du Soleil. Et la différence, c'est simplement la température. C'est un effet de température. Parce que quand vous prenez une molécule quelconque, prenez l'eau par exemple, si elle est à haute température, elle est gazeuse. Si elle est à basse température, elle est de la glace. Si elle est de la glace, elle est solide, elle peut être accrétée dans une planète, puisque vous vous souvenez, on a dit qu'il fallait des particules solides pour faire
une planète.
Donc si vous êtes près du Soleil, beaucoup de la masse va être sous forme gazeuse. Et il y aura peu de masse disponible pour faire des planètes.
D'où les petites planètes.
Voilà, les petites planètes denses, parce que ce sont les éléments lourds, silicates, métaux, etc., qui constituent ces planètes-là. Maintenant, vous allez à quelques unités astronomiques, donc quelquefois la distance Soleil-Terre, vous avez une température très basse, du coup tout est glacé, l'eau mais aussi l'ammoniac, le méthane, le gaz carbonique et toutes ces molécules-là. Vous intégrez ça dans les noyaux et vous avez des gros noyaux. Et à partir de là, la gravité est suffisante pour accréter le gaz environnant. Et vous fabriquez comme ça des planètes géantes. C'est tout simple.
C'est tout simple, mais il a fallu quand même certainement beaucoup d'années
Absolument.
Pour pouvoir aboutir à ce résultat.
Absolument, je peux vous dire que quand j'ai commencé à travailler sur les planètes, ce n'était pas du tout une idée acquise, c'est une idée que j'ai vue mûrir au cours des 20 dernières années, disons.
Alors, venons-en peut-être aux comètes,
oui.
Puisque au départ, on parlait du système solaire pour après aboutir aux
Absolument.
Comètes. Alors, ces comètes viennent ce nuage.
Elles font partie des résidus de ce disque protoplanétaire, si vous voulez. On a formé les gros objets, les planètes. Dans leur mécanisme d'accrétion, les planètes géantes ont aussi accrété le gaz environnant, ce qui a donné, entre parenthèses, beaucoup de satellites et un système d'anneaux dans ce mécanisme d'accrétion du gaz environnant. Et vous avez des petits corps qui ne se sont accrétés nulle part et à rien, et ce sont les astéroïdes et les comètes, et les objets transneptuniens dont on parlera peut-être tout à l'heure aussi.
Tout à fait.
Alors les comètes, ce sont les plus petits, et ils sont sur des trajectoires très excentriques, c'est-à-dire que la plupart du temps, ils sont très loin du Soleil, et par conséquent, ils évoluent dans un milieu qui est très froid, où les collisions sont rares, et donc ils nous intéressent parce que ils n'ont pas évolué depuis le début de l'histoire du système solaire. En étudiant de près une comète, on a accès à ce qu'était la matière primitive du système solaire. Et ça, c'est très important pour comprendre justement les processus de formation, d'évolution.
Mais alors, cette comète, elle n'a pas de direction bien précise.
Alors, elle est sur une orbite elliptique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que de temps en temps, elle va se rapprocher du Soleil. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce que
c'est de la glace.
C'est de la glace, et essentiellement de la glace d'eau. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la glace d'eau quand elle arrive à côté du Soleil ? Ben, elle s'évapore. Et en s'évaporant, elle éjecte les poussières qui sont avec. Et les poussières, c'est du carbone, des silicates, des choses comme ça. Et ça fait un nuage qui va réfléchir la lumière solaire, et ça va donner des spectacles tout à fait étonnants dans le ciel, simplement par la réflexion de la lumière solaire sur ce nuage de poussière qui maintenant entoure le noyau.
Donc c'est ce que l'on peut voir, nous, depuis...
C'est ce que l'on peut voir quand on a la chance d'avoir une comète qui s'approche de nous, quand en plus la géométrie avec le Soleil est favorable. Alors on a eu comme ça la comète Elbop en 97, qui était tout à fait spectaculaire, et la fameuse comète de Halley, qui est connue depuis l'Antiquité, et qui est repassée en 86.
Donc ce sont quand même des phénomènes beaucoup moins communs que les fameuses étoiles filantes.
Ah, tout à fait. Parce que les étoiles filantes, c'est aussi un phénomène lié aux comètes. Une comète, donc, sur sa trajectoire, elle laisse un petit peu de poussière cométaire tout au long de l'orbite, si vous voulez. Pas seulement là où elle est vraiment. Mm-hmm. Vous avez tout un petit cortège de poussière qui, préférentiellement, s'aligne le long de l'orbite. Et quand l'orbite de la Terre croise une telle orbite, à ce moment-là, elles sont happées par le champ de gravité de la Terre. Et ça donne, à certains moments spécifiques de l'année, des nuages de météores.
Des nuages de météores.
Et ces météores, ce n'est rien d'autre que des poussières cométaires qui rentrent dans l'atmosphère, qui sont chauffées, donc qui s'évaporent en laissant une traînée lumineuse spectaculaire.
Donc c'est les fameuses poussières dont on le parlait au départ.
Oui.
Donc là nous sommes dans le système solaire classique, on
Absolument.
Va dire. Mais alors vous faisiez référence aux exoplanètes. Alors là c'est encore autre chose,
Tout
c'est un autre domaine.
Tout à fait. Les exoplanètes, c'est une autre révolution d'astronomie des 10 dernières années. Donc depuis 1995, on sait maintenant qu'il existe des planètes autour des étoiles proches de nous, et en particulier des étoiles de type solaire, ce qui a évidemment quantité d'implications possibles sur l'existence possible de la vie sur ces planètes, bien sûr.
D'où leur nom exoplanète.
Alors, exoplanète, oui, parce qu'elles sont exo, c'est-à-dire extérieures au système solaire, c'est ce que veut dire le terme. Alors, on en a découvert maintenant à peu près 200.
Vous en avez peut-être découvert, vous,
quelques-unes ? Non, moi, je n'ai pas travaillé sur ce sujet-là, mais enfin, j'ai suivi de près ces travaux, parce que c'est vraiment, à mon avis, c'est l'une des révolutions de l'astronomie d'aujourd'hui, cette découverte-là.
Et sur ces 200 exoplanètes, est-ce que justement on pourrait trouver une planète qui ressemble étrangement à la nôtre ? Puisque derrière tout ça, c'est notre question aussi,
oui,
c'est savoir
absolument.
Si sommes-nous seuls dans l'univers.
Absolument. Alors, il y a deux choses qu'il faut dire, je pense, à ça. Premièrement, les moyens actuels ne nous permettent pas de détecter des planètes comme la nôtre. Il faut, pour trouver une exoplanète, qu'elle soit relativement massive, parce que pour l'instant, on ne les détecte pas directement. Elles sont trop proches de leur étoile, elles sont noyées dans le flux de l'étoile. On ne peut pas faire une image d'une étoile et voir la planète à côté. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est observer avec beaucoup de précision le mouvement de l'étoile. Et ce mouvement de l'étoile, il est un tout petit peu perturbé par la planète si celle-ci est suffisamment massive. Et c'est ce petit mouvement qu'on mesure, et c'est ce petit mouvement qui nous fait dire indirectement qu'il y a une planète autour de l'étoile.
Donc il faut au départ que la planète ait une densité, une masse assez importante.
Il faut que la planète ait une masse suffisamment importante, et pour l'instant, on a surtout détecté des planètes qui ont des masses proches de Jupiter, ou la moitié. Enfin, les premières planètes qu'on a découvertes étaient de ce genre, des Saturnes ou des Jupiters. Alors maintenant, on n'arrête pas de descendre la limite, évidemment, on fait des progrès. Et récemment, on a découvert une planète qui fait 5 masses terrestres, ce qui est un bel exploit. Donc il n'y a pas de doute qu'on va en trouver d'autres. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore les détecter. Ça, c'était pour répondre à votre question. Et alors, l'autre point, je pense, qui est important de dire, c'est que les planètes qu'on a découvertes, elles ne ressemblent pas du tout aux nôtres du système solaire. Parce que je disais que dans le système solaire, on comprend pourquoi les planètes géantes sont loin et les planètes telluriques proches. Or, qu'est-ce qu'on a trouvé en majorité? Des planètes géantes, des exoplanètes géantes, tout près de leur étoile.
Donc l'exact inverse
Exactement.
De notre système.
Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup perturbé les astronomes, parce que c'est quelque chose que notre modèle de formation du système solaire ne prédisait pas du tout.
Alors je vous propose de marquer une courte pause, Thérèse Encrenaz, et on se retrouve tout de suite après pour avoir les explications sur ce système des exoplanètes. À tout de suite.
Qui porte l'habit vert?
Les académiciens des 5 académies.
Qui est invité en habit vert?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert?
Le portrait?
Le parcours?
La rencontre?
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque?
Sur Canal Académie.
Suite de notre éclairage en compagnie de Thérèse Encrenaz. Alors avec vous, Thérèse Encrenaz, on vient de se quitter sur ce monde bien particulier des exoplanètes que l'on connaît depuis une dizaine d'années à peu près. Alors, Thérèse Encrenaz, qu'est-ce qu'on sait sur ces exoplanètes? Comment elles se sont formées? Est-ce que c'est le même schéma que notre propre système solaire, à savoir une formation à partir d'un nuage ou pas? Qu'est-ce qu'on sait en fait?
Bien, c'est un vrai défi pour les astronomes en fait, parce qu'on a découvert des systèmes qui sont très différents d'une autre. Et il reste à comprendre pourquoi. Alors, en ce qui concerne la formation à partir d'un disque, on pense plutôt que oui, c'est le cas, pour la simple raison qu'on a observé beaucoup d'étoiles autour de nous qui, elles aussi, possèdent un disque protoplanétaire, donc qui seraient dans une phase où peut-être la formation d'exoplanètes est en cours. Le fait qu'on voit beaucoup de disques protoplanétaires, et puis c'est aussi quelque chose que les modèles théoriques expliquent très bien, cette formation de disques, ça laisse à penser que les exoplanètes, elles aussi, ont dû se former au sein d'un disque. Alors le problème, c'est d'arriver à comprendre comment des exoplanètes géantes peuvent être tout près de leur étoile.
Et quand là, je vous dis l'exact inverse de ce que nous,
exactement,
on a.
Hein. Et quand je vous dis tout près, imaginez qu'elles sont à 0,05 unité astronomique, ce qui veut dire qu'elle tourne en 4 jours. Imaginez une exoplanète qui tourne en 4 jours autour de son étoile, alors que Jupiter met, je ne sais plus si c'est 11 ou 12 ans, la Terre met une année, comme vous savez.
Oui, oui, bien
donc,
sûr.
Donc, vous imaginez à
en
quel point...
En 4 jours, on doit avoir les cheveux dans le vent. Hein.
Exactement. D'ailleurs, c'est très juste ce que vous dites, parce que vraisemblablement, il y a un vent solaire, un vent stellaire tellement fort qu'il est possible que l'atmosphère soit soufflée, l'atmosphère
D'accord.
de la planète. C'est pour vous dire que c'est vraiment
donc
des
mondes... Donc ça décoiffe.
Ça décoiffe. Et ce sont des mondes qui sont vraiment extrêmement différents de ce que nous connaissons, nous.
Alors, comment on explique que justement ces planètes géantes, enfin en tout cas ces planètes oui. de densité assez importante, soient très proches
Alors,
des étoiles?
L'explication qu'on essaye de mettre sur pied, c'est un mécanisme de migration, c'est-à-dire que beaucoup de théoriciens travaillent sur l'idée que les exoplanètes géantes se seraient formées très loin, un peu comme dans le système solaire,
oui.
mais qu'ensuite, par interaction avec le disque protoplanétaire, des mouvements que je ne vous décrirai pas, de turbulences, de frictions, d'interactions diverses, ça induit un mouvement qui tend à rapprocher la planète de son étoile. Et là aussi, il y a une question de constante de temps qu'il faut prendre en compte. Ça ne se fait pas en un jour, mais on peut imaginer que sur des durées de vie très longues, on rapproche comme ça la planète. Alors, la question maintenant, c'est qu'il faut l'arrêter. Parce qu'on observe beaucoup d'exoplanètes géantes qui sont justement à cette distance de 0,05 unité astronomique. Apparemment, on n'en voit pas plus près. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les arrête? Mystère. Est-ce qu'après, elles sont happées dans l'étoile ? Mystère.
On n'en sait pas plus.
On n'en sait pas plus. Et c'est une question qui agite énormément la communauté. Il y a énormément de travaux qui sont faits actuellement là-dessus. Et je pense que c'est un des grands défis de l'astronomie d'aujourd'hui, de comprendre le mécanisme de formation des exoplanètes.
Alors aujourd'hui, vous le disiez, on connaît à peu près 200 exoplanètes.
Oui, je crois qu'on est passé à 200 il y a quelques semaines.
Et donc en fait, c'est toutes les semaines, tous les ans qu'on ajoute comme ça des noms d'exoplanètes.
C'est presque toutes les semaines. Disons que souvent, une détection est annoncée comme tentative et puis il y a d'autres observations qui sont faites pour confirmer s'il s'agit bien d'une planète ou non.
Alors, ma question va être volontairement provocatrice. Quel intérêt de savoir s'il y a des exoplanètes et comment elles se comportent ? Quel est l'intérêt ?
Je pense qu'il y a une question fondamentale pour toute l'humanité. C'est est-ce que la vie existe sur, est-ce que la vie pourrait exister sur une de ces exoplanètes ? Parce que nous avons l'impression aujourd'hui que dans le système solaire, en tout cas, en ce qui concerne une forme de vie évoluée, nous sommes probablement seuls, ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir des formes de vie primitives ou de la chimie prébiotique ailleurs. Mais pour ce qui est d'une forme de vie évoluée, la Terre est sans doute unique dans le système solaire. Mais si on trouve des exoplanètes de type terrestre à la bonne distance de leur étoile...
Encore faut-il effectivement qu'elles soient à bonne distance.
Exactement. Mais rien n'est, on n'a aucune raison de penser que ça n'existe pas. Disons que tout est ouvert. Donc l'enjeu est considérable.
Donc derrière toutes ces recherches, la question c'est de savoir si on pourrait trouver une planète Terre,
voilà.
Une planète jumelle qui ressemblerait à notre planète à nous.
C'est ça. Alors ce qui se passe, c'est qu'actuellement, comme je vous disais tout à l'heure, nos moyens actuels ne nous permettent pas de voir ces planètes, mais on y travaille. Et en particulier, un satellite construit par la France, qui s'appelle Corot, va être envoyé à la fin du mois de novembre, avec pour mission 2006, pour tenter de détecter des planètes qui seront sans doute un peu plus grosses, parce qu'il sera sans doute un petit peu à la limite pour voir des planètes de type terrestre. Mais on espère mettre en évidence comme ça des planètes autour d'étoiles proches, qui seraient un peu plus proches de la Terre que ce que nous connaissons aujourd'hui.
Mais alors, quel est le taux de probabilité, enfin quelle est la probabilité pour qu'on trouve une planète qui ressemble à la nôtre ? Est-ce que on est vraiment dans la science-fiction ou est-ce qu'il y a réellement il y a tout à fait une possibilité pour qu'un jour on tombe sur quelque chose qui nous ressemble ?
C'est difficile à cadrer, c'est difficile de répondre à cette question parce que justement pour l'instant nous n'avons pas d'informations. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose comme entre 5 et 10% d'étoiles de type solaire qui ont au moins une exoplanète. C'est énorme. 5 à 10%, c'est énorme. Et encore, on n'a pas détecté, et vraisemblablement, il y a plus de petites exoplanètes que de grosses. Parce que quand on regarde la distribution des exoplanètes en fonction de leur masse, on voit que les plus massives, ce qui est assez logique, hein, c'est une distribution de masse où les plus massives sont les moins nombreuses. Donc, pour l'instant, on voit les plus massives, c'est les plus faciles à détecter, mais les moins massives sont plus nombreuses. Et on peut penser que les encore moins massives de type terrestre seront également très nombreuses.
Donc en fait, c'est une vaste structure pyramidale.
Exactement. Exactement.
Infinie.
Oui, et donc on a de bonnes raisons de penser que les exoplanètes de type terrestre seront présentes, et en grand nombre. Alors à partir de là, la question qui nous intéresse à partir de là, c'est de savoir si de telles planètes pourraient abriter la vie. Alors comment répondre à cette question ? Bon, on ne sait pas comment la vie est apparue sur Terre, mais on sait quand même une chose, c'est que le liquide a joué un rôle majeur. Et ça, c'est une question à laquelle on peut répondre. Qu'est-ce qu'il faut pour que de l'eau liquide soit présente sur une planète ? Il faut qu'elle soit à la bonne température. Pour qu'elle soit à la bonne température, il faut qu'elle soit à la bonne distance de l'étoile en question.
Mmh.
Et ça peut se quantifier, ça peut se mesurer.
Donc là déjà, on a quand même quelques indices
Absolument.
Pour pouvoir déjà travailler sur ce sujet.
Si nous découvrons beaucoup d'exoplanètes de type terrestre, rien qu'à regarder ensuite leur distance à leur étoile, ça nous donnera un test pour savoir lesquelles sont les plus propices à pouvoir héberger la vie.
Alors, revenons peut-être à nos planètes à nous du système solaire.
Oui.
Revenons un peu plus près, même si les distances sont quand même très élevées. Vous parliez de vie. Pendant un temps, on pensait qu'il y avait une vie possible sur Mars, puisqu'on a trouvé de la glace,
je crois. Oui.
Qu'en est-il aujourd'hui de nos connaissances à ce sujet sur Mars ?
Bien, on a un peu précisé nos connaissances, en particulier grâce aux missions récentes et la mission européenne Mars Express, qui a qui a été extrêmement fructueuse. Alors on sait que d'abord la glace existe sous les pôles, ça c'est une chose. On sait que le liquide a coulé, et on pense même qu'elle a coulé au tout début de l'histoire de Mars. Ensuite, il y a eu quelques épisodes où l'eau liquide est sortie probablement suite à des phénomènes volcaniques. On en est là.
Donc si l'eau sous forme liquide a existé, oui. Une forme de vie a existé.
J'irai pas si vite. C'est-à-dire, on ne sait pas combien de temps l'eau est restée, et on ne sait pas combien de temps il faut pour que la vie se développe. Ça fait beaucoup d'inconnus, malgré tout. Mais disons qu'il n'est pas exclu que la vie ait pu apparaître et se développer dans les premières phases de l'histoire de Mars. Et est-ce qu'il pourrait exister des traces de vie fossile ? C'est une question qui est ouverte et qui est d'ailleurs un des enjeux de l'exploration de Mars.
Alors, peut-être que maintenant nous allons pouvoir parler de ces planètes, de ce rangement de planètes. Hein. Nous avons besoin de mettre tout ça dans des cases. Il existe deux types de planètes, les planètes intérieures et les planètes géantes. Alors oui. Peut-être que vous allez pouvoir nous dire déjà où nous, la planète oui. Terre, on se trouve, où se trouve la planète Mars également. Oui. Pourquoi alors, on fait ce rangement déjà ?
Alors, je dirais plutôt planète tellurique plutôt que planète intérieure parce que c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez quatre planètes telluriques qui sont physiquement dans la première catégorie proche du Soleil. C'est Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si vous parlez de planète intérieure, alors c'est plutôt Mercure et Vénus parce que Mars est au-delà de l'orbite de la Terre. Mm-hmm. Donc je préfère parler de planète tellurique parce que ça définit les propriétés physiques des objets. Donc ces quatre planètes qui se sont formées selon le schéma que je vous disais, avec des éléments lourds, c'est-à-dire des roches, des silicates, des métaux. Donc ce sont des planètes, on les appelle aussi rocheuses. Mm-hmm. Alors elles ont une atmosphère, mais l'atmosphère, enfin sauf Mercure qui est trop près du Soleil pour garder son atmosphère, oui. Les trois autres ont une atmosphère, mais elles ne représentent qu'une infime fraction de la masse de l'objet. C'est la grosse différence avec les géants. Et elles n'ont pas ou peu de satellites parce que le mécanisme de formation ne favorise pas la création de satellites dans le plan de l'orbite.
Donc pas de satellites, pas d'anneaux non plus.
Alors les satellites en fait, ils ont été pas d'anneaux. Vous avez tout à fait raison. Les satellites, ils ont été acquis par collision vraisemblablement ou par capture. Dans le cas de la Terre, c'est une collision entre un objet de la taille de Mars vraisemblablement au tout début de l'histoire de la Terre. Et dans le cas de Phobos et Deimos, les deux satellites de Mars, on pense qu'il s'agit de captures, qui sont des astéroïdes en fait.
Alors ça, ce sont donc pour les planètes oui. telluriques, nous oui. sommes bien d'accord, qui sont donc les plus proches oui. du Soleil. Et puis nous avons donc les planètes qu'on dit que nous appelons géantes, qui sont donc Jupiter, Saturne,
oui. Uranus et Neptune.
Et Neptune,
oui.
qui elles ont des anneaux.
Alors, elles ont des anneaux, elles ont aussi beaucoup de satellites dans le plan équatorial de la planète, et ça s'explique par le mécanisme dont je vous ai dit deux mots tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles ont acquis, ces planètes, un noyau suffisamment massif pour que le champ de gravité de ce noyau permette la création du gaz environnant, de la matière environnante. La matière environnante, c'est essentiellement le gaz, l'hydrogène, et puis aussi d'autres particules, mais essentiellement du gaz. C'est pour ça qu'on les appelle aussi gazeuses, enfin surtout pour Jupiter et Saturne, parce que l'accrétion du gaz a fait qu'elles sont devenues très volumineuses, mais en même temps, comme le gaz est léger, elles ont une faible densité. Et d'ailleurs, entre ces quatre planètes géantes, en fait, il y a deux sous-classes. Hein. Il y a Jupiter et Saturne qui ont énormément de gaz. Elles ont des masses proches de 300 et 100 masses terrestres. Vous voyez, c'est énorme. Oui. Et puis, vous avez Uranus et Neptune qui font 14 et 17 masses terrestres. Et sachant qu'elles ont un noyau qui en fait une dizaine, un noyau de glace qui fait à peu près une dizaine. Donc, on les appelle les géantes glacées, Uranus et Neptune, parce qu'elles sont majoritairement faites de glace avec du gaz autour. Tandis que Jupiter et Saturne, elles sont majoritairement gazeuses, parce qu'elles sont essentiellement formées de gaz.
Alors, on a longuement parlé des exoplanètes. Oui. Là, on est revenu sur d'autres oui. planètes à nous du système solaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît tout de nos planètes à nous, de nos planètes du système solaire ? Est-ce qu'on a tout découvert ?
Oh là, non, bien sûr que non. Chaque fois qu'on découvre quelque chose, on a des nouvelles questions. Ça, c'est ce qui est frappant dans l'exploration des planètes du système solaire, parce qu'on peut dire que là aussi, en 20 ans, grâce à l'exploration spatiale en particulier, on a appris énormément de choses. Mais on a découvert à quel point tous ces mondes étaient différents. Même les quatre planètes géantes, même Jupiter et Saturne, qui sont oui. toutes les deux des gazeuses, elles sont extrêmement différentes. Les mécanismes à l'œuvre ne sont pas les mêmes. Uranus et Neptune, elles sont extrêmement différentes. Uranus, c'est une planète assez amorphe. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de turbulence. Neptune, au contraire, a des tâches,
Elle vit.
Elle a une dynamique extrêmement forte. Mm-hmm. Il y a des mouvements ascendants et des mouvements zonaux qui sont extrêmement forts. Pourquoi ces deux planètes sont si différentes alors qu'elles on ne sait pas. Et elles ont des couleurs, rien que les couleurs. Pourquoi Neptune est bleu profond alors que Uranus est verdâtre? Pourquoi la tache rouge de Jupiter est rouge? C'est des questions qu'on n'a pas de réponse définitive.
On n'a pas de réponse définitive auxquelles on travaille.
Absolument,
certainement.
Bien sûr.
Mais autant de réponses pose encore autant de questions.
C'est ça. C'est comme ça que ça.
C'est dans le même cadre que l'univers.
Tout à fait.
Eh bien, merci Thérèse Ancrenas de nous avoir apporté toutes ces connaissances.
Mais
merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Donc, notre émission se termine ici. Je renvoie au site de l'Académie des Sciences, au www.academie-sciences.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt Thérèse Ancrenas.
À bientôt.